Attention, attention, le podcast des petites frousses y contient des propos qui conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
Les amis, c'est aujourd'hui que ça se passe.
Yeah.
On parle de Dyatlov Pass, l'affaire du col Dyatlov. Tout le monde sait c'est quoi en général, mais vous, surprenamment, vous savez pas c'est quoi. Puis ça, c'est vraiment trippant, parce que je vais être la personne qui va vous baptiser face à la connaissance de cette histoire.
Oui.
Parce que vous la connaissez pas.
C'est ça.
Ouais, mais j'ai sûrement déjà vu de quoi, genre, à TV.
Ah, c'est sûr.
Sans savoir que c'est ça.
C'est sûr.
Ou sur le fly, mettons, à Canal Z, parce que c'est le genre de place où
Historia.
Ça passerait. Ouais, Historia.
Historia, Canal 2. C'est un rite de passage pour tout ce qui est podcast, émission. Faut que tu parles de Dyatlov Pass. Puis, ben là, c'est notre tour. Alors voilà. L'affaire du col Dyatlov, c'est un incident qui s'est déroulé en février 1959 en Russie, auparavant l'Union soviétique, où 9 skieurs randonneurs expérimentés sont tous décédés. Je parle de corps éparpillés un peu partout, des blessures affreuses, puis l'endroit où ça s'est passé a été banni pendant 3 ans après la tragédie. Le moins que je puisse dire, c'est que les circonstances entourant leur mort sont très étranges. De la manière qu'on va procéder, c'est que je vais expliquer ce qui s'est passé du début à la fin. Puis comme d'habitude, ben après on ira dans les théories, je vais faire une espèce de chronologie de tout ce qui s'est passé. Puis je tenais à préciser que j'ai lu un livre sur le sujet, qui s'appelle Dead Mountain, écrit par Donnie Hitchard, premièrement parce que j'ai l'air à mon affaire à dire ça. Puis deuxièmement, le livre, il apporte vraiment des petites snippets d'informations pertinentes. Donnie Hitchard s'est vraiment intéressé à cet événement-là parce que lui, c'est un directeur de film puis un producteur de film. Puis un moment donné, il a commis l'histoire de Dyatlov. Je pense que c'est pour faire un film d'horreur basé là-dessus. Il a commis accès à l'histoire de tout ça, là. Puis ça l'a vraiment, vraiment intrigué. Il est parti des États-Unis. Il est allé en Russie. Puis il a retracé toutes les places, genre, où est-ce qu'ils sont allés, le groupe de randonneurs. Puis il a refait le chemin. Il a parlé au monde qui était impliqué dans cette histoire-là. Puis c'est ça, il a fait son livre. Il a gagné des New York Times bestsellers.
Ah ouais, il a fait sa propre enquête, genre.
C'est vraiment intéressant comme livre. C'est vraiment bien fait. Fait que ce qui s'est passé, on part du début. Le 23 janvier 1959, un groupe de 10 étudiants de l'Institut polytechnique de l'Oural sont partis en randonnée. Leur but était d'atteindre le sommet du mont Otterton. Leur âge variait entre 20 et 25 ans, puis l'un d'eux avait 37 ans. Le groupe était constitué de 2 femmes et de 8 hommes. Là, je vais dire leur nom. Là, faut être patient avec moi, on sait que c'est pas ma tasse de thé. Puis, ça va comme suit. Il y avait Igor Alexeyevich Dyatlov, l'incident porte son nom. Il y avait Yuri Nikolaevich Doronchenko. Lyudmila Alexandrovna Dubinina. Lyudmila Alexandrovna Dubinina. Georgi Yuri Alexeyevich Krinchovenchko. Alexander Sergeyevich Kolevatov. Zanaïda Alexeyevna Kolmogorova, Rustem Vladimirovitch Slobodin.
Slobodin.
Nikolai Vladimirovitch Thibault Bignol. Lui, il a un petit peu de français, on dirait.
Un petit peu de. Thibault Bignol.
Celui-là, là, il est écrit Sémillon, mais ça se prononce Simon.
Ah, coquin. Ah.
Coquin. Fait que Simon Alexander Alexeyevich Zoloratiov, puis finalement, Yuri Yefimovitch Yudin. C'était vraiment difficile. Je vais parler d'eux avec leur nom de famille, OK? Je voulais pas manquer de respect à personne. C'est sorti comme c'était. Fait que durant leur randonnée, ils allaient faire 350 km de distance dans la neige avec des températures qui atteindraient les moins 30 degrés Celsius. C'est pas chaud. Mais au Canada, tu sais, on l'atteint de temps en temps. Fait qu'on dirait que c'est pas tant pire, mais c'est quand même très froid. Tu sais, on l'a atteint la semaine passée, celui-là. La raison pourquoi il se donnait autant de misère à vouloir faire cette randonnée, c'est que grâce à cette randonnée intense-là, ils obtiendraient une attestation de compétence type 3, ce qui équivalait à une maîtrise des sports à l'Institut de polytechnique de l'Oural. Fait que tu sais, il y avait un but, là. C'était pas juste décrinquer, là.
C'était un diplôme, dans le fond.
C'était un diplôme, tu sais. Qu'est-ce que tu fais avec ton diplôme? Ben, tu sais pas. On me regarde pas. Le leader du groupe, c'était Igor Dyatlov, lui que j'ai mentionné plus tôt, lui qui, dans le fond, l'incident porte son nom. Il avait 23 ans. Le groupe avait déjà fait ce genre d'expédition dans le passé. Puis malgré leur jeune âge, ils étaient tous très expérimentés. L'un d'eux avait déjà été mordu par un serpent, un autre avait déjà tombé face à face avec un ours, puis le dernier s'était déjà fait tirer dans une chambre par un chasseur dans le passé.
My God!
Ouais, il n'avait vécu plus qu'une, là. Puis ça, c'est quoi qu'il faut garder en tête, là? Quand vous allez savoir ce qui s'est passé. C'était tous des gens qui se connaissaient et qui avaient des liens très forts ensemble, à l'exception de l'homme de 37 ans, Zolotaryov. Igor Dyatlov l'avait connu par l'entremise de quelqu'un puis l'avait présenté au reste du groupe avant de l'inviter à la randonnée. Zolotaryov, il était instructeur de sport en passant. C'était pas juste un autre crinqué par rapport à qui s'était invité là. Puis, moi, tout, j'ai envie d'aller faire du ski puis de la randonnée dans la montagne. C'est ça. Pour documenter quotidiennement leur expédition, les 10 randonneurs s'étaient tous équipés de calepins et de caméras. Il y en avait 4 caméras. Fait que le 23 janvier, ils partent. Je vais vous décrire un peu le chemin qu'ils ont fait parce que, mon Dieu, que ça prend de la volonté. Ils ont pris 2 à 3 trains sur 482 km. Ensuite, ils ont fait 72 km en autobus. Ils ont fait 40 km en camionnette. Ils ont fait un petit bout en traîneau à cheval jusqu'à ce qu'ils atteignent Vihai, qui est le dernier endroit où est-ce qu'il y a de la civilisation. Puis où est-ce que les routes se rendent. Là. Après ça, c'est juste de la neige puis des arbres. Puis à partir de là, ils commençaient à monter la montagne en faisant du ski puis randonnée compagnie.
Mm-hmm.
Ça en allait profond. Le groupe a fait quelques arrêts entre-temps. Ils sont allés dans des auberges pour dormir, pour manger. Ils ont même visité une petite école. Ils ont rencontré des petits-enfants. Il y a des petites photos de tout ça. Il y avait vraiment du fun, là. Quand on voit les photos, c'est cute, là. T'as quasiment le goût d'y aller, mais bon. T'aurais le goût que t'invites.
Mais aller d'un chic-choc à la place.
Un des 10 randonneurs, qui s'appelle Yuri Yudin, âgé de 21 ans à l'époque, souffrait de rhumatisme et avait une malformation cardiaque. Il voulait vraiment faire l'expédition, malgré la douleur, mais malheureusement, après le 5e jour, Yuri avait atteint sa limite. Le 28 janvier, Yuri prend la décision de se séparer du groupe et de retourner chez lui. Ils ont toutes fait des beaux petits bye-bye. Il y a des photos de ces petits adieux-là qui ont été prises, puis on peut les trouver sur Internet. Igor Dyatlov y a averti Yuri que la randonnée devrait prendre plus de temps puis de pas de s'inquiéter pour leur retour. Fait que les autres ils ont continué la route comme prévu. Pis c'est comme ça que le groupe est passé de 10 à 9 personnes. Ce fut la dernière fois que Yuri a vu ses compagnons en vie, le 28 janvier 1959.
Ces rhumatismes l'ont sauvé.
Ouais. Ben ouais, tant que...
Dans le fond. Ça fait bien.
Les 9 autres devaient donner des nouvelles au plus tard le 12 février. Ils devaient envoyer un télégramme à leur club sportif à partir de Vihai, la dernière place où il y avait de la civilisation. Mais quand le 12 février est arrivé, personne n'avait de nouvelles d'aucun membre du groupe. Pas de raison de paniquer. C'est pas inhabituel qu'il y ait un délai de quelques jours dans ce genre d'expédition-là, j'ose imaginer. Puis ça devait être peut-être parce qu'ils ont décidé de prendre plus leur temps, de prendre un autre chemin ou de pas bouger à cause d'une tempête. C'est correct. Puis en plus, Dyatlov y avait dit à Yuri que ça prendrait plus de temps.
Mm-hmm.
Fait qu'on se rassure. Le 20 février 1959, toujours pas de nouvelles. Personne n'est revenu. Là, il faut se rappeler, le groupe est parti le 23 janvier. La dernière personne qui les a vus en vie, c'est le 28 janvier. Puis le retour était prévu pour le 12 février. Puis là, c'est rendu le 20 février.
Hey, là, ça fait longtemps, oui.
Ça fait un bout, là. T'es dans le fret, là. Les amis et des familles des membres du groupe ont réalisé que quelque chose fonctionnait pas. Les proches ont mis de la pression pour que des recherches soient faites pour les retracer. Une troupe de secours s'est formée, incluant des étudiants et des professeurs de l'Institut Polytechnique, là où le groupe, dans le fond, étudiait. La police et l'armée sont venus en aide. Il y a eu des avions, des hélicoptères, des gens qui apportaient leurs chiens pour retracer le groupe. À ce stade-là, il y avait déjà une enquête criminelle qui était entamée. Mais c'est bizarre, parce que, en bout de ligne, c'est juste du monde qui est pas revenu. Pourquoi t'assumes que quelque chose de criminel qui est arrivé, tu sais, c'est bizarre.
Ouais, ça fait pas de sens.
6 jours après le début des recherches, le 26 février 1959, l'équipe de secours a localisé le campement du groupe de randonneurs. Il se situait près du mont Kolatsiakl.
Voilà.
Sur le coup, on pourrait dire que c'est une bonne nouvelle, mais le campement, il n'y avait rien de rassurant. L'emplacement était désert. La tente, c'est une grosse tente où tout le monde rentrait dedans. Elle était recouverte d'une fine couche de neige. Mais elle était gravement endommagée. Elle avait été déchirée avec un couteau, mais de l'intérieur. Là, l'inquiétude monte de niveau parce que clairement, quelque chose de terrible s'est passé. Là. Pour que tu veux sortir de ta tente, au lieu de prendre la petite porte avec ton petit zipper, c'est peut-être pas un petit zipper dans le temps, là. Mais tu la déchires pour sortir. Fallait que tu crisses ton camp assez vite.
Ouais.
Autour de la tente, il y avait environ 9 traces de pas qui s'éparpillaient un peu partout. Les pistes partaient vers le boisé et se rejoignaient en parallèle avant de se reséparer. Après quelques mètres, les pas s'estompaient à cause de la neige, fait que c'était plus difficile de suivre, mettons, où est-ce que les traces de pas menaient. Il y a un détail sur les pistes que je crois qu'il est important de spécifier puis qui n'est pas assez mentionné quand on parle de cette histoire-là, c'est que les traces de pas, mettons, là, ils n'étaient pas distancés les uns les autres. Si tu cours, mettons, tu te sauves de quelque chose parce que tu as déchiré là, dans ta tente, tes pas vont être loin les uns les autres parce que tu cours. Mais là, c'était pas le cas. comme s'ils avaient marché.
Okay.
Fait qu'ils se sont garochés derrière la tente, mais un coup dehors, ils ont marché.
Ouais, mais ça me fait penser que quand tu cours dans la neige, tu peux pas faire des si grands pas que ça.
Ah!
C'est sûr.
Ça fait...
C'est pas fou ce que tu me dis là.
C'est pas fou.
C'est pour ça qu'on s'en parle. Mais peu importe, les traces démontraient qu'ils étaient tous pieds nus ou en pied de bas ou qu'ils portaient seulement un soulier. En plus, leur équipement de randonnée et de ski, leurs biens personnels, des items qui auraient pu servir d'armes comme des haches et des couteaux, leurs vêtements, incluant leurs souliers, étaient tous restés au campement. Fait que si je récapitule, l'équipe de Dyatlov ont déchiré leur tente de l'intérieur, se sont précipités sans s'habiller convenablement et sans apporter de quoi se défendre, puis une fois à l'extérieur, ils ont possiblement marché. Ou, c'est sûr que dans la neige, comme tu dis, Catherine, c'est plus difficile.
Mais j'ai une
surtout
autre question.
Surtout les pieds, là. Ça doit être chiteux.
Ouais, j'avoue.
Je me demande comment ils ont fait pour dire que la tente avait été déchirée de l'intérieur.
Mais je pense une petite manière avec le tissu, je sais vraiment pas. Ou de la manière que c'est agrandi, là, tu sais, ils ont fait un trou avec le couteau, mais ils l'ont seulement étiré de l'intérieur.
Parce que c'est ça, peut-être que la façon qu'elle est déchirée, I guess.
Ouais.
Je sais pas.
En tout cas, je me demandais.
C'est vrai, c'est un bon point aussi.
C'est un bon point. Mais pourquoi t'as déchiré pour rentrer dedans, s'ils sont pas là?
Ben,
Quelqu'un qui rentre dedans.
Ouais.
Mais pourquoi tu rentres pas par
j'avoue.
La porte?
Ouais. Mais exemple, t'es quelqu'un de méchant qui veut rentrer.
Ouais. Tu veux les attaquer, là, tu prendras pas le petit zipper, là, tu vas faire... Puis tu vas stabber la tente.
Ouais.
J'avoue.
Dans les films, ça ferait ça, là.
Ouais.
C'est sûr.
Quand l'équipe de secours a vu tout ça, tu sais, l'état des lieux, les traces de pas, puis la tente et compagnie, ils s'attendaient pas du tout à ce que les randonneurs soient en vie. Puis là, c'est là qu'ils se posent la question, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Heureusement, les caméras et les calepins que les 10 membres du groupe devaient traîner avec eux sont restés dans la tente. Puis une chronologie des événements a pu être faite grâce à ça.
Mmh. Ah, c'est pas pire.
Et là, je vous dis ce qui s'est passé.
OK.
Bien, ce qu'on pense qui s'est passé selon la documentation trouvée sur les lieux. Le 31 janvier, le groupe a commencé à se préparer pour la montée. Ils ont stocké de la nourriture et des items non nécessaires pour l'escalade, mais qui seront utiles pour leur retour. Le 1er février, la traverse était entamée. Ils pensaient passer la nuit suivante de l'autre côté de la montagne, mais les conditions météorologiques se sont grandement détériorées. La température ce soir-là aurait atteint entre moins 25 degrés Celsius et moins 30 degrés Celsius. Ils se sont trompés de chemin à cause du manque de visibilité causé par le blizzard, puis en réalisant leur erreur, ils ont décidé de s'arrêter et d'établir leur campement au flanc de la montagne Kolatsiakl. Et dans la langue Mensi, qui est un peuple de la région, Kolatsiakl, ça veut dire « montagne morte » en passant, d'où le titre du livre que j'ai lu, « Dead Mountain ».
Mm-hmm.
Mm-hmm. De faire ça, établir leur campement au flanc de la montagne, c'était une décision très étrange. Parce que si les randonneurs avaient tout simplement descendu d'un kilomètre, ils auraient atteint une forêt qui leur aurait donné une meilleure protection face aux intempéries. On pense que la raison pourquoi ils ont décidé de s'arrêter là où est-ce qu'ils se sont arrêtés, c'était sûrement pour éviter de perdre l'altitude qu'ils avaient atteint dans leur montée de la montagne. Ouais. Pour eux de redescendre pour se protéger.
Moi, j'aurais redescendu pour un kilomètre là, pour me protéger comme fou, là.
Oui, il me semble que pour du monde expérimenté, c'est surprenant parce que eux autres, là, quand je te dis expérimenté puis pas peur de rien, il y a une fois où ils sont allés faire une randonnée, puis il y a eu une bande de chevaux sauvages qui ont passé. Tu vois ça dans les films, mais pas
ouais.
Le front. Puis le truc, moi j'aurais jamais cru ça, au lieu de courir puis essayer de te sauver, Dyatlov a dit de tout le monde de se mettre en gros tapons. Comme ça, les chevaux ont pensé que c'était une roche.
What?
Les chevaux ont tout simplement contourné le groupe. Ça, c'est une autre randonnée. Fait que, tu sais, pourquoi ils ont fait une décision si stupide de dire « on va juste rester où est-ce qu'on est, même si on est super vulnérable? »
Non, non, c'était clairement là, les kingpins de la survie.
Non, oh, non, non, ils n'ont vu plus qu'un, je te dis.
Ah.
Ouais.
Ouais, je suis choquée parce que c'est pas un kilomètre sur une randonnée de plusieurs jours qui va...
Ben non, c'est... ben c'est ça. Un kilomètre, c'est rien.
C'est ça.
C'est tellement rien. Mais bon, je sais pas combien ils ont pensé.
Couche de mystère.
Cool. Ouais, c'est ça, un autre affaire qui se rajoute au mystère. Juste avant d'aller plus loin, on va faire une petite pause publicitaire. On aimerait vous présenter Spooks and Spanks. Tu te cherches des produits de bain, de douche, des bougies, des crèmes, des sérums et j'en passe, tout ça fait à la main. Mais tu vas capoter. Spooks and Spanks, c'est une compagnie québécoise gérée par une seule femme. Les produits sont vegan, sont faits avec des ingrédients provenant de la nature et c'est sans cruauté animale. C'est bon pour les humains, les animaux, puis la planète. Spooks and Spanks et les Petites Frousses vous offrent 15% de rabais sur votre panier en utilisant le code Petites Frousses. Le prochain réapprovisionnement aura lieu le 5 mars prochain à 15h, l'heure de l'Est, et la livraison se fait à l'international, mes petits froussants. Dépêchez-vous, ça part vite. Vous n'allez pas le regretter. Si je peux me permettre, les coups de cœur à Greg et moi sont la brume Forbidden Forest et le savon fouetté Prisma pour la douche et le savon à main Space Babe. On capote! Allez voir Spooks and Spanks sur Instagram, c'est un coup de cœur garanti. Visitez le site web spooksandspanks.com pour commander et économiser 15% avec le code promo petite fausse, valide pour une durée limitée. Après le 1er février, il n'y a plus aucune photo qui ont été prises, puis il n'y a aucune note qui ont été écrites dans leur calepin. L'équipe de secours a décidé de suivre les traces de pas autour du campement. Celles-ci les ont menées à environ 1,5 km plus loin, puis ont trouvé les restes d'un petit feu. Puis c'est tout près de cet endroit-là que les deux premiers corps ont été découverts. Ils étaient sous un arbre, puis les corps étaient ceux de deux hommes, Krivoninchenko et Doroshenko. Ils ne portaient pas de manteau, ni de pantalon d'ailleurs. Ils étaient tous les deux en sous-vêtements, seulement et sans leurs souliers. Trigger warning, OK? C'est dégueulasse. Leur peau était décolorée. Puis je vais vous lire un passage du livre d'Edmonton parce que, tu sais, faut bien que je plug le livre. Mm-hmm. Non, mais pour vrai, c'est parce que je pourrais pas mieux formuler comment il l'a écrit. L'un d'eux était allongé face contre terre dans la neige, les bras croisés sous sa tête comme un oreiller. L'autre était couché sur le dos, le visage vers le haut. Sa bouche et ses yeux ont été arrachés par un animal, probablement un oiseau.
Ah. Ah.
Sérieusement, là. Fait que Doroshenko, il y avait le nez, les oreilles et les lèvres pleins de sang. Il y avait des ecchymoses un peu partout sur son corps, mais surtout au niveau des bras, allant de 1,5 cm jusqu'à 5 cm. C'est des gros bleus, là, quand même.
Ouais.
La chaussette de son pied gauche était brûlée. Il y avait un liquide mousseux de couleur grise qui s'écoulait de sa bouche jusqu'à la joue droite. La note suivante a été ajoutée à l'autopsie. Le liquide mousseux de couleur grise trouvé sur la joue droite du défunt pousse les docteurs à croire qu'avant la mort, quelqu'un ou quelque chose appuyait sur sa poitrine.
Hein?
Mm-hmm. Comme un poids.
Mm-hmm. Ouais, mais ça serait quoi, le liquide mousseux?
Je sais pas.
C'est bizarre.
Gris, je sais pas. Pas docteur, ça se peut qu'il y ait une explication très simple à ça qui se passe post-mortem, je sais pas.
Ouais, ils l'ont pas mentionné, en tout cas.
C'est ça qui arrive, ils l'ont pas dit, hein? C'est ça que ça sert à une autopsie après tout. Krivoninchenko, lui, le deuxième qui a été trouvé près du feu, il y avait le bout du nez manquant, il y avait une brûlure sur la jambe gauche de 4 cm, engelure au lobe d'oreille, ecchymose de presque 2 cm au niveau de la tête et autour de l'os temporal gauche. D'autres ont été trouvés au niveau de la poitrine, des ecchymoses, je veux dire, au niveau de la poitrine, des jambes, des cuisses et sur la fesse gauche et sur ses mains. Ses mains, là, ça c'est un autre affaire. Il y avait un décollement de l'épiderme sur le dessus de sa main gauche d'une largeur de 2 cm. Une partie de l'épiderme de la main droite était dans sa bouche.
Ah!
Comme s'il avait mangé sa main. En tout cas.
OK.
Comme si, je sais pas. Ah, mais Seigneur. Ça n'a pas été spécifié s'il y en avait dans l'estomac, par exemple.
Ouais. Il n'a pas fini sa bouchée.
L'arbre sous lequel Krivoninchenko et Doroshenko se trouvaient avait des branches cassées allant jusqu'à 5 mètres de hauteur. Les enquêteurs ont d'abord pensé qu'ils avaient cassé ces branches pour recueillir le bois pour le petit feu près duquel ils étaient retrouvés. Mais parce que des résidus de peau et de sang ont été trouvés sur l'arbre, c'est plus probable qu'un d'eux ou les deux voulaient monter dans l'arbre pour avoir une meilleure vision de leur environ, probablement même pour retrouver le camp puis y revenir. Ça expliquerait pourquoi les mains de Krivoninchenko étaient amochées. T'essaies de monter, il fait froid, t'as pas de gants, ouais. Tu écorches les mains. Mais si tu t'accroches les mains au point de t'en écorcher, c'est peut-être pas juste pour avoir une meilleure vision panoramique, là.
Ouais, c'est ça. Il était pressé de monter.
D'après moi, il était dû monter pour se sauver de quelque chose. Mm-hmm. Je pense ouais. Qu'il voulait suivre. Puis le médecin légiste dit aussi que les blessures aux mains étaient causées par des chutes répétitives causées par le manque de coordination dû au froid. Si tu tombes, sur la paume de la main.
Ouais.
La peau est manquante sur le dessus de la main. Je sais pas comment il tombait, là. J'ai un peu de misère avec ça. Ouais, mais je ne veux pas influencer votre vision de la chose, mais... Non, fait plusieurs petites affaires. T'es genre... je sais pas.
Ouais. Imagine grimper dans un arbre en caleçon, genre. Il n'était pas habillé.
Ouais, il y aurait eu des écorchures, peut-être surplus sur partout, les jambes. Il y avait des ecchymoses. Mais pas nécessairement des écorchures.
Je sais pas.
En tout cas, quelques jours plus tard, les chercheurs ont trouvé trois autres corps grâce aux chiens d'un des volontaires. Les corps étaient plus proches de la tente que les deux premiers. Puis étrangement, cet emplacement-là avait déjà été fouillé, avec un chien aussi, puis rien n'avait été aperçu. Les corps étaient ceux de Dyatlov, le leader, Kolmogorova et Slobodin. Leur positionnement indiquait qu'ils essayaient de retourner au camp. L'un de ces trois-là était agrippé au bouleau, juste à côté. Mais je ne sais pas trouver c'était lequel. Il y avait un des corps qui était vraiment comme s'il faisait un colleux à l'arbre.
Ouais. Okay.
Ils étaient tous mieux habillés que les premiers. C'est très fort probable qu'ils ont enlevé les vêtements de Krivonichenko et Doronchenko après qu'ils soient décédés pour se réchauffer puis se garder en vie. Encore une fois, expérimenté. Dyatlov avait son manteau déboutonné avec ses mains sur sa poitrine. Il y avait un bas de laine dans son pied droit puis un bas en coton dans son pied gauche. Il y avait une abrasion aux sourcils et aux joues. Les deux chevilles avaient des écorchures allant jusqu'à 3 cm. Il y avait du sang chassé sur les lèvres. Des ecchymoses...
Chassé.
J'ai-tu dit ça?
Moi, j'ai dit chassé.
Du sang séché sur les lèvres. Il y avait des ecchymoses aux articulations métacarpo-phalangiennes de la main droite. Puis pour comprendre c'est quoi ça, il faut juste fermer son poing puis, la, puis genre faire comme si on voulait puncher quelque chose. Puis ça va être la partie qui va frapper la chose.
Mm-hmm.
Donc, c'est là. Note à l'autopsie. C'est une blessure courante dans les combats de corps à corps.
Voilà.
Oh.
Kolmogorova portait deux tuques, un pantalon et une veste de ski, aucune chaussure, mais trois paires de bas. Elle avait des blessures aux mains semblables aux deux premiers qui avaient été trouvés. T'sais, il y avait comme juste de la peau qui manquait.
Mm-hmm.
Krivonichenko et Doronchenko. Elle avait du sang séché un peu partout sur son visage. Slobodin portait deux pantalons de ski, deux chandails et un sweater, quatre paires de bas et une botte au pied droit. Il y avait du sang à l'intérieur du nez. Les lèvres enflées, épiderme écorché à l'intérieur de l'avant-bras. Même blessure de type combat corps à corps que Dyatlov avait. Gonflement et abrasion de forme irrégulière sur le côté droit de son visage. Bleu aux jambes, aux bras. Il y a des similarités quand même entre les blessures.
Ouais.
Tu sais, c'est...
Ouais.
Slobodin avait une fracture du crâne d'une longueur de 6 pouces. L'autopsie a suggéré que ça avait été causé par des coups répétés d'un objet, avec un objet contondant.
Ouf. 6 pouces.
6 pouces, là.
Un Subway.
D'un demi-Subway.
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 Quand même.
C'est du stock, c'est une tête.
C'est une tête? Mais oui, c'est certain. Ouch. C'était pas considéré comme la cause de la mort, par contre. Non, non. En fait, les 5 qui ont été trouvés avaient toutes la même cause de décès. L'hypothermie.
Hey.
OK.
Ouh.
Je sais pas.
Ben, c'est ça, j'allais dire. Ils sont maganés, mais on sait pas c'est quoi qu'ils ont tué, genre. Fait qu'ils étaient vivants. T'sais, ils étaient pas morts. Ils sont juste restés là jusqu'à temps que... Ah!
Mais c'est dans ma tête, s'il y a du sang qui est ressorti de ton visage, ça se peut que je suis très dans le champ, là, mais le sang coule pas quand t'es mort, non?
Aucune
idée. Tu sais, ça coagule plus de la même façon.
Mais ça coule encore, là.
Mais s'il fait froid en plus, non?
Je sais pas.
Tu sais, t'as plus le cœur qui pompe.
Mais ben, c'est sûr que ça coule, mais ça fait pas genre la même affaire, mais tu te vides comme ça.
Ouais, tu dois te vider pareil.
Ouais,
il faut que le liquide part quelque part, mais t'auras pas comme des pompes de sang. Peu importe si tu meurs d'hypothermie. Pourquoi t'aurais du sang qui te sort du nez, puis des oreilles, puis du ci, puis du ça?
Ouais, mais c'est ça qui est bizarre, c'est que son mort d'hypothermie, mais il était bien magané avant.
Ouais, c'est
là,
ça.
Tu sais, c'est bizarre, pareil.
Il y a quand même quelque chose qui est arrivé, c'est ça. Fait que jusque-là, 5 corps avaient été retracés, mais les 4 autres manquaient encore à l'appel. T'étais-tu en vie? T'étais-tu pas en vie? On le sait pas. En mai 1959, les 4 derniers membres du groupe ont été retrouvés. Thibaut Bignol, Kolevatov, Dubinina, puis Zolotaryov. C'était eux qui étaient le plus loin du campement. Leur corps était situé sous 4 mètres de neige. Ils étaient tous très bien habillés. Puis c'est clair qu'encore une fois, c'est les vêtements des autres qui avaient été utilisés après leur décès. Ils les avaient enlevés et les avaient mis sur eux.
Ah ouais.
Il y avait d'autres pièces de vêtements qui ont été retrouvées accrochées pas loin d'eux, mais peu utilisées. Il me semble que tu en rajoutes, tu sais.
Ouais.
Ils avaient creusé un espèce de petit ravin dans la neige pour se protéger du vent. Très intelligent. Mais ils ont été retrouvés quelques pieds plus loin hors du ravin. Un peu moins intelligent. Mais bon.
Ouais.
L'état des corps. Donc, encore une fois, c'est pas doux. Le premier corps, c'est celui de Thibaut Bignol. Il y avait des dommages significatifs à son crâne, comme s'il avait été frappé à répétition. Sa mâchoire était cassée. Il y avait un bleu sur la lèvre, d'en haut, du côté gauche. Kolevatov, il y avait le nez cassé, la peau autour de ses yeux manquante, au point où le crâne était à découvert. Il y avait des plaies ouvertes derrière les oreilles. Puis son journal personnel, à lui, n'a jamais été retrouvé.
Non.
Fait que c'est quand même bizarre. Peut-être dans la neige, par exemple. Là, on m'en est, faut pas virer fou. Là. Ça se peut qu'il était juste plus creux dans la neige. Dubinina avait une hémorragie massive au cœur. Son nez était enfoncé dans sa tête. Elle avait plusieurs côtes de cassées. Elle avait été trouvée la bouche ouverte, presque comme si elle criait. Elle avait gelé comme ça.
Oh, c'est horrible.
Il lui manquait sa langue, des parties de ses lèvres, des fragments de son crâne, ses yeux, ainsi que d'autres tissus faciaux. Plusieurs croient que sa langue a pu être mangée par des animaux. Mais après l'autopsie, ça a été révélé qu'il y avait du sang dans son estomac. Ça veut dire que la langue a été enlevée pendant qu'elle était en vie. Puis sa langue n'a jamais été retrouvée. Le petit dernier, Zolotaryov, il a été retrouvé sans ses yeux aussi. La peau autour de ses yeux aussi était manquante, au point où le crâne était à découvert. Plusieurs côtes de cassées, mais seulement du côté droit. Puis il y avait une blessure profonde à sa tête. Le crâne était à découvert.
Ouf, ceux-là sont plus maganés que les autres.
Ouais, mais ça fait plus longtemps aussi qu'ils sont dans la neige.
Ouais.
Puis ils étaient en dessous de la neige.
Ouais.
Fait que je me dis à quel point il y a pu avoir des animaux qui les ont attaqués. T'sais, ça se peut que ça aussi, là, une cordée qui passe, là, chning-chnung. Sauf que la raison pourquoi la montagne s'appelle la montagne morte, c'est qu'il faisait tellement froid que il n'y avait pas beaucoup d'animaux là, qui pouvaient vivre là-bas. Ah,
pas beaucoup de faune. Ouais.
Puis tu sais, c'est quand même weird de se faire qu'il picosse tout le temps à la même place sur tout le monde.
Ouais. Ça a l'air que la face est beaucoup attirante pour les animaux, comme si jamais tu meurs chez vous tout seul avec un chat, il va toujours y aller pour ta face.
OK.
Mais je pense pas vraiment que c'est nécessairement des faits, là. Je pense
que c'est le fun comme commentaire.
Si jamais, mettons, là, vous habitez tout seul, ben mettez beaucoup de nourriture à votre chat. Comme ça, si jamais vous mourrez et personne vient, ben il va avoir en masse de bouffe le temps que le monde vous retrouve. Conseil de vie!
Gros conseil.
Quoi, t'en sais jamais? Dubinina et Zolotaryov, les deux derniers qui ont été retrouvés, avaient tous les deux des fractures majeures à la poitrine. Le médecin légiste a dit que la force nécessaire pour aboutir à de telles blessures serait similaire à celui d'un impact d'accident de voiture. L'affaire, c'est qu'il n'y a aucune trace externe d'un trauma comme celui-ci. Tu sais, un petit bleu, un petit ci, un petit ça.
Ouais.
Normalement, quand il y a une fracture de ce genre-là, sans signe externe, c'est causé par de la pression. Ouais, pas de la haute pression, là.
Ouais, genre...
Tu vas exploser de l'intérieur.
Ouais, c'est comme s'il y avait de quoi qui s'était à côté dessus, puis après ça, qui avait poussé bien fort.
Ouais. Là, mais sans qu'il y ait eu...
Sans qu'il y ait d'impact.
Ouais, c'est ça.
Je comprends.
Ouais.
Quelque chose aussi qui fait hausser les sourcils un petit peu, c'est que Zolotaryov, c'est le seul qui a été retrouvé avec ses biens sur lui. Il y avait un journal, des pièces de monnaie, un compas. Il est mort avec un appareil photo autour du cou. Zolotaryov, c'est lui qui avait 37 ans, donc plus âgé que les autres. C'est le seul membre du groupe que personne connaissait, à part Dyatlov. Yuri Yudin, celui qui est parti au début de l'expédition, il a dit qu'il trouvait ça surprenant que Zolotaryov ait une caméra sur lui. Il se souvenait pertinemment que le groupe n'en possédait que 4 et qu'elles avaient toutes été trouvées au campement. Et là, tout d'un coup, il y a une 5e caméra qui apparaît. Yuri Yudin s'est posé la question. Est-ce que Zolotaryov avait apporté une caméra en cachette? Malheureusement, l'eau a endommagé le film de la caméra. Quelques photos ont pu être sauvées, mais les autres sont perdues à jamais. Mais les photos qui ont été sauvées, tu vois rien, là.
Ouais.
Tu vois fuck all, c'est rien. Fait qu'il a peut-être pris des photos, mettons, après qu'ils sont partis, qui pourraient éclaircir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un site qui s'appelle dyatlovpass.com, puis il y a toutes les photos des autres caméras, dont elle de Zolotaryov. On voit les photos, puis ça dit qu'il verrait un avion. Il voit un avion. Mais il n'y a clairement pas un avion. Là, c'est un reflet de quelque chose.
OK.
Mais il y a vraiment du monde. Là. Ce site-là, là, il est actualisé tous les jours. Là. Il y a du monde qui sont bien focussés sur cette histoire-là. Fait que si vous voulez aller voir puis vous faire une petite idée, moi, je trouve ça n'a pas l'air d'un avion, point à tout, comme s'il aurait pris des photos d'un avion dans le ciel.
Ouais.
Pourquoi? Tu te risquerais ta vie. Puis comme, hey, je suis quasiment mort d'hypothermie. Prends une photo. En tout cas, je tiens à rappeler, encore une fois, personne connaissait Zolotaryov. Il n'y avait pas de femme, il n'y avait pas d'enfant. C'était un ancien militaire de guerre. C'était un gars super mystérieux. Il n'avait pas donné son vrai nom au groupe. Il disait que son nom, c'était Alexander, mais son nom, c'était Simon. Je vais en reparler de lui plus tard. N'oubliez pas son nom. Zolotaryov. Les vêtements que Kolevatov et Dubinina portaient au moment de leur mort montraient des signes de radioactivité.
Oh!
L'autopsie disait... Les vêtements ont été contaminés par de la poussière radioactive provenant de l'atmosphère, ou les vêtements ont possiblement entré en contact avec une substance radioactive.
Shit!
Qu'est-ce que ça fait, man, dans sur une montagne?
Aliens!
Ah, mon Dieu, ça vient de ta bouche.
Mais là, des fois...
Mais il y a une autre question qui se pose. Pourquoi les vêtements ont été testés pour de la radioactivité? Genre, pourquoi tu penses à ça?
C'est
les autorités qui ont insisté pour que ça se fasse tester. Mais pourquoi? Pourquoi tu vois du monde mort? C'est de l'hypothermie, supposément. Mais, ah, je vais tester pour la radioactivité. Pourquoi t'as pensé à emmener la machine, genre? T'as pas tout le temps ça dans ton kit d'enquêteur, j'imagine?
Il y a un guille sous roche. À moins que la radioactivité, ça serve à détecter d'autres choses quand tu cherches des corps ou quelque chose, je sais pas trop.
Mmh. Ouais, il y a peut-être un test autre, puis ils ont détecté par la bande de la radioactivité, genre.
Je sais pas.
Je pense pas. Moi, de ce que j'ai compris, c'est vraiment la petite machine qui fait... C'est comme un sensor, on dirait un micro un peu, là. Puis là, tu te bouges, ça fait... Puis là, tu le vois, là, la petite flèche, là. Oui, c'est ça.
OK.
Meilleure imitation. Meilleur bruiteur que moi, définitivement.
Oui, oui.
Définitivement, là.
Le bruiteur.
Écoute. 2 semaines après la découverte des derniers corps, l'affaire était classée. C'était réglé. La cause du décès, hypothermie pour les 9. Les proches n'étaient pas d'accord avec ça parce que clairement, quelque chose est arrivé pour les mettre dans un tel état. Tu sais, sortir de la tombe, être désorienté, ouais. Sortir, pas être capable de revenir, tout péter, tout piteux.
Mettons quelque chose qui les attaque, là. Ils auraient attaqué, comme il y en a une couple, ils ont des coups à la tête fort.
Ouais.
Fait qu'il aurait frappé, mais il l'aurait pas tué.
Ouais.
Il l'aurait magané. Oh,
juste assez.
Juste assez. Tu sais, ça fait pas de sens parce que clairement, il s'est passé quelque chose. Là,
en tout cas, moi, j'ai rarement entendu d'histoire de quelqu'un qui mange plusieurs coups à la tête, que ça fait une entaille de 6 pouces et qui ne meurt pas de ça.
Ouais, je pense que ça a sûrement été traficoté un petit peu.
Ouais.
Je pense qu'il magouille.
Parce qu'en même temps, comme tu dis, David, c'est difficile de maganer quelqu'un juste à la limite.
Mais c'est que t'es pourquoi il arrêterait avant de le tuer, tu sais.
Peut-être qu'il aurait pensé qu'il l'aurait tué. Pour une personne,
c'est ça, ça serait arrivé au 9. Ça n'a pas rapport.
Ça marche pas.
Cette théorie est refusée.
On n'accepte pas ce que les forces de l'ordre nous disent. Puis là, les randonneurs, ils ont été accusés d'être inexpérimentés, d'avoir manqué de jugement. On le sait que c'est pas vrai. On le sait que c'est pas vrai qu'ils étaient inexpérimentés. Ils étaient expérimentés. Ils étaient en train d'accomplir leur maîtrise de sport, puis de tu sais.
Ouais.
C'était leur passion, c'était ce qu'ils faisaient pour le plaisir, professionnellement aussi, tu sais. En tout cas. Puis tu sais, pas besoin d'avoir de l'expérience pour savoir que tu mets un manteau quand il fait moins 30, là. C'est pas un manque de jugement, ça, là. Il est arrivé quelque chose qui les a sortis de leur tente, pareil.
C'est sûr.
Même si l'hypothermie, qu'est-ce qui les a fait sortir de leur tente? C'est ça qu'il faut pas oublier. Ils ont été aussi accusés d'avoir pris de la drogue, d'avoir abusé de l'alcool. Tu sais, un petit moonshine. Le seul alcool présent, c'était de l'alcool à fraction dans une trousse de premiers soins. Puis eux, ils consommaient ni drogue ni alcool, même qu'ils s'étaient donné comme but d'arrêter de fumer la cigarette pendant leur expédition. Ils avaient dit, on n'en amène pas de cigarette avec nous, là.
Oh.
Tu sais, c'est bien beau le cliché des les Russes prennent de la vodka, là, mais il n'y en avait pas. OK? Il y a beaucoup d'histoires qu'ils ont trouvé de l'alcool sur place, ça n'avait pas de bon sens, c'est même pas vrai. C'est vraiment juste l'alcool, la friction.
Il y en a un qui a arrêté de fumer, il s'endurait plus, il a clenché tout le monde. Là, ça me prend ma nicorette.
Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'était du monde vraiment dans leur sport puis dans leur passion. Ils se seraient pas saoulés. Il y a aussi l'excuse qu'ils auraient fait du moche.
Okay.
J'ai jamais entendu l'histoire de du monde qui a tilté sur une moche, là, puis qui a tué tout le monde autour.
Ouais, c'est
pas.
Bizarre.
Wow, ça explique en rien.
Mais nous, ils sont tous maganés pareil. Fait que, c'est le dernier qui a fait tout ça, là, il hésitait.
Même s'ils se seraient entretués, là, il y aurait hache à côté. Mais non, ils sont tous d'entente.
Non, c'est ça.
Marche pas. Quand le mot s'est mis à se répandre concernant les corps, la population a demandé à avoir plus de réponses. Un médecin légiste a jeté un coup d'œil au corps juste pour faire plaisir à la population. Il a reconfirmé que c'était bel et bien de l'hypothermie, mais il a ajouté une petite note à l'autopsie disant que, et je cite, « une force irréfutable, inconnue, a été utilisée pour blesser et tuer ce groupe de randonneurs ». Ça te tente pas de chercher c'est quoi la force irréfutable, toi?
Ouais, c'est
genre,
ça.
Genre, OK, merci de ton ajout, mais dis-nous en plus, tu sais.
Ouais.
Le chef de l'enquête a refusé de signer le rapport indiquant que tout le monde était mort d'hypothermie, puis le chef de l'enquête s'est résigné après. Fait qu'il y a magouille. Il n'est pas me dire qu'il y a pas magouille. Il y a magouille. Tu sais, quand t'es même pas, tu le sais, là, toi-même, là, que sûrement qu'il y a de quoi de louche, puis
bon, ça y est,
tu
moi,
décides de démissionner.
Je suis en train de me faire une idée, là.
T'es en train de te faire une idée?
Ah, oui.
OK, Gabin, j'ai d'autres trucs à te dire. Bon, j'ai hâte d'entendre ce que tu as dit, par exemple. Le procureur a rejeté le tort sur Igor Dyatlov puis le reste de l'équipe parce qu'ils ont dit que c'était lui qui avait pris les mauvaises décisions, qui avait fait une succession de mauvaises décisions qui ont tué le reste des membres de l'expédition. Les 9 membres du groupe ont été enterrés, 7 à un même cimetière, 2 autres ailleurs. Des rumeurs ont circulé que des agents du KGB allaient visiter les tombes. Aucune preuve a été recueillie pour prouver que ce soit vrai. Un témoin qui était aux funérailles, du nom de Yuri Konchenvitch, a vu les corps et a dit que les dépouilles avaient la peau de la couleur de la brique.
Hmm?
La peau des corps avait une couleur orange-brune.
Oui.
Quand ils ont ramené?
Quand ils ont ramené, bien, aux funérailles.
OK.
C'était open casket, cercueil ouvert. Puis, ouais.
Il y en a qui ne devaient pas être cute.
Et ça devait pas être bobo. Oh, non, ouais, non, ben, sérieux. Ça, ça il y a les photos sur Internet de leur corps. Là. T'sais, amusez-vous si vous avez le cœur assez solide. Ouf. C'est encore dans la neige.
Ah, ouais.
Ouais. Puis, si quelqu'un va sur le site dietlovepass.com, vous allez les voir. Fait, à vos risques et périls. Plusieurs gens, à cette époque-là et encore aujourd'hui, sont convaincus qu'on voulait étouffer l'affaire au plus vite. Et ça a mené à plusieurs spéculations et d'innombrables théories que je vais vous présenter. Mais avant, je veux savoir, Catherine, c'était quoi? T'avais l'air d'avoir comme une petite illumination.
Ben là, ça m'a rappelé un cas qu'on a déjà vu. Celui de l'hôpital de Maria, c'était ça son nom?
Gloria Ramirez.
Gloria Ramirez.
Ouais, premier épisode.
Ouais, ça me fait penser à ça, dans le sens que c'était comme full inexplicable. Moi, je pense qu'il y avait peut-être un genre de laboratoire radioactif de choses qu'ils testaient qui étaient clairement louches dans ces montagnes-là, parce que c'était caché, puis que la police était au courant, puis que là, ces randonneurs-là,
oui,
ils se sont trop approchés. Fait que là, il s'est sûrement passé quelque chose que là, je suis pas capable d'expliquer, mais le pourquoi de la police qui veut essayer de taire l'affaire, okay, parce qu'ils veulent pas qu'ils découvrent.
Mais une conspiration.
Ouais. Ouais, dans le fond, je suis une conspirationniste.
Mets ton casque de conspirationniste.
Peut-être qu'ils prenaient genre des animaux, genre un ours, puis là, il le mettait radioactif, ça devenait un Sasquatch, puis c'est lui.
Oh! Mais c'est dans les théories. Théorie, le Yeti. Mais il y aurait d'autres traces, donc je pense pas que c'est le Yeti. Mais il y aurait, tu sais, mettons ton ours radioactif, encore une fois, il y aurait sûrement des traces de pas autour.
Mm.
Mais ouais. Qu'il n'y avait pas
mais
de traces.
C'est ça, ça reste weird, parce qu'il y a pas de plus de. Il y a 9 traces de pas, tu sais.
Il y était 9 personnes.
Il y était 9 personnes.
Ah!
Fait que c'est ça qui est weird. Mais moi, je suis d'accord avec toi, là, ça ressemble à ça, de la façon que la police agit avec la patente. On dirait qu'elle essaie de couvrir quelque chose.
Fait mais il y a quand même,
il manque quelqu'un, il manque la personne qui les a clenchés. Faudrait que ça soit à l'intérieur du groupe. T'sais.
Un oiseau radioactif.
Bonne réponse, c'est la théorie la plus populaire en soirée. Mais tu pourrais contacter le monde du site Diet Love Pass si jamais.
Je vais aller faire mon petit ajout.
Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais oui, avez-vous d'autres théories autres que cela?
Moi, j'ai de la misère à expliquer les blessures. Là,
ouais.
Ouais, je pense qu'il y a bien du monde qui a de la misère à expliquer les blessures.
Aliens.
Ouais. OK, mais êtes-vous prêt à entendre ce que j'ai à vous offrir?
Vas-y.
Mm-hmm.
C'est bien fin. L'affaire a été réouverte en 2019. Il y a 75 théories qui ont été étudiées. Je vais vous nommer les plus évidentes, les plus populaires. Puis, tu sais, il y a eu l'Yeti. C'est sûr qu'il est sorti. Il y a eu de l'éclair, tu sais, comme des thunder, là, des éclairs, mm-hmm, mais en boule, qui les aurait attaqués un par un.
Bah. Okay.
Écoute, c'est assez fantastique, mais ils ont tout étudié. Puis je vais vous dire c'est laquelle la théorie qui a été choisie, élue, mais pas tout de suite. Je vais la garder pour la fin.
OK.
Donc, la première que j'ai, c'est le déshabillage paradoxal. C'est une théorie qui revient souvent. C'est un phénomène qui survient fréquemment lorsque quelqu'un souffre d'hypothermie. Tu crois que t'as chaud, mais t'as pas chaud. Donc, ton réflexe, c'est d'enlever ton linge. T'accélères ta perte de chaleur causée par le fait que tu te déshabilles. Tu sais, c'est pas bon, là. Ça pourrait être ça, mais non, parce qu'il y en a plein qui ont été découverts avec, genre, 6 paires de bas.
Ouais, c'est ça.
Fait que je pense pas nécessairement que ce soit ça.
Ouais, 2 paires de pantalons.
Ouais. Non. Fait qu'en tout cas, merci de cette idée. On découvre que ça existe, ce phénomène-là, mais je pense pas que c'est ça.
Ouais, ça explique pas les blessures.
Ça explique pas sortir de la tente, tu sais. C'est ça, non, c'est ça.
Ça explique rien.
Qu'est-ce qui sortir de la tente? Deuxième, les aliens, extraterrestres. Hein? On le lit, évidemment. Ça pourrait fitter à cause de plusieurs facteurs. La panique du groupe, radioactivité, on soupçonne.
Mm-hmm.
Puis les blessures sans explication, pas de traces de pas. Tu sais, ça pourrait, tu sais, cocher certaines...
Ça coche les trucs qu'on peut pas expliquer.
C'est ça.
Parce que on sait pas.
Parce qu'on connaît pas les extraterrestres. Fait que c'est facile. Mais la dernière photo que le groupe a prise, elle est bizarre. Voulez-vous la décrire?
Shit.
C'est la boule noire, là.
Ouais.
On dirait quelqu'un qui serait couché au sol, qui aurait pris la photo, puis c'est le dessous d'un ovni qui s'en va les avaler.
Ah ouais, OK.
OK, non.
Ah. Ben, j'avais jamais pensé à ça, là. Hey, mais c'est vrai, en maudit que ça ressemble à ça.
Ah, ouais, mais je me suis toujours dit que si je me faisais aspirer par une soucoupe, ça ressemblerait à ça. Mais c'est abstrait.
Oui, c'est très abstrait.
Mais je sais pas, on dirait juste qu'il a pris sa photo puis qu'il a passé sa main devant, là.
Mais non, il y a un rond.
Non, mais dans le sens que, tu sais, mettons, Ça a l'air d'une photo que tu as prise, mettons, avec ton sel dans ta poche.
Ah, OK, ouais, j'avoue.
C'est ça que je veux
parce
dire.
Parce qu'on voit juste un rond de lumière, on dirait, tu sais, prendre une photo quand il neige, là, quand il vente, là, ça se peut avec le flash, mettons, je sais pas s'il y avait un flash, j'imagine que oui, là. Mais tu sais, ça a juste fait plein de reflets, puis ça a fait
ouais,
un rond.
C'est ça, ça peut être un gros flocon de neige qui est passé direct en avant de l'objectif.
Ça a fait plein de reflets. Ça a juste fait un rond. De reflets.
Oh, ça pourrait être n'importe quoi.
Ça pourrait être bien des affaires. C'est mais il y a ça. Du monde que ça titille leur idée que ce soit des extraterrestres qui sont responsables de leur décès. Il y a du petit stock qu'on peut rajouter à la théorie. Il est arrivé des choses dans les semaines entourant la mort du groupe. Il y a des géologues qui étaient à 70 km de la montagne où les corps ont été retrouvés. Puis ils disent avoir vu des sphères de lumière le 1er février 1959. Ça, c'est la même journée qu'on pense que le groupe de Dyatlov sont morts. Et Dyatlov aussi, d'ailleurs. Leurs témoignages ont été ignorés par les autorités. Le 20 mars 1959, le groupe qui s'est occupé de chercher l'équipe de Dyatlov aurait aperçu des orbes lumineux dans le ciel. C'est arrivé tôt le matin, quand le soleil ne s'était pas encore levé. Il faisait encore bien noir. Puis un homme nommé Victor montait la garde cette nuit-là quand il a vu une grosse sphère dans le ciel. Il a réveillé tout le monde. Valentin Yakimenko, un des secouristes qui a aidé à trouver le groupe de Dyatlov, a vu aussi les orbes et a décrit l'événement comme suit. « Nous avons regardé ces orbes ou disques pendant 20 minutes jusqu'à ce qu'elles disparaissent derrière la montagne. » Nous étions tous convaincus que cette chose était reliée avec la mort du groupe de Dyatlov. Valentin, le même homme qui a dit ce que je viens de dire, a aussi dit dans une conférence en 2015 à l'Université de l'Oural qu'il suspecte que le groupe avait entendu un bruit qui les avait attirés dehors, puis Zolotaryov, l'homme de 37 ans, a vu les lumières dans le ciel et a essayé de les prendre en photo. Donc c'est pour ça qu'il a été retrouvé mort avec son appareil autour du cou.
OK. Mm-hmm.
En avril de cette année-là, toujours en 1959, plusieurs militaires ont témoigné avoir vu des sphères dans le ciel pendant environ 10 minutes. C'est même passé dans le journal local. En 1990, l'homme en charge de l'enquête a dit en entrevue que pendant la recherche, lui et son partenaire ont dû survoler une partie des montagnes en avion. Puis ils ont remarqué que le dessus des arbres était tous brûlés.
Oh!
Ça, c'est bizarre.
Ouais, ça, c'est weird. Hey.
Qu'est-ce...
Oh. Ouais. Ça paraît mal.
C'est louche.
Puis c'est pas juste ça. Quelques temps après, l'homme en charge de l'enquête et son coéquipier se sont fait demander par un membre du Congrès soviétique d'enlever toutes les références à des objets volants non identifiés de l'enquête, ce qui incluait de nombreux témoignages et même une photo de ces orbes. Ça, c'est louche.
Ouais.
Ça, c'est louche. Mais là, il y a une autre théorie qui est un peu comme reliée avec ce que l'homme Valentin a dit, qui pensait que Zolotaryov était sorti pour prendre des photos. Le monsieur Valentin, il pensait pas nécessairement que c'était des ovnis. Il faisait plus allusion à peut-être un décollage de fusée ou un test militaire que l'équipe de Dyatlov aurait pas dû voir.
Ouais.
Oh, ça revient un peu à ma petite
exactement.
Théorie.
Ça m'a vraiment fait penser à ça, puis je pense que c'est très probable comme théorie quand même.
C'est juste que encore une fois, ils auraient pas dû voir ça. Qu'est-ce qui explique les blessures puis ouais. le manque de traces de peau?
C'est ça, t'es des militaires, ils auraient tiré dessus, ça aurait été fini.
Ben moi, j'ai entendu d'autres choses, que des fois, c'était plus sadique que ça à cette époque-là. Ouais. Mais encore là, je ne pourrais dire, car je n'étais pas là. Mais je vais vous expliquer un peu ce que les gens pensent qui s'est passé, OK? Dyatlov et les autres randonneurs auraient vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. Genre un lancement de fusée. Ça fait du bruit, va dehors. Ils pensent que c'est genre un tremblement de terre, je sais pas, panique, ils sortent. Ils voient quelque chose, ils se font rencontrer face à face avec peut-être des membres de l'armée qui se sont rendus compte que, on n'était pas tout seul sur la montagne cette journée-là.
Mm-hmm.
Les membres de l'armée s'en sont rendus compte, ils les ont terrorisés. Peut-être au point d'arracher la langue d'un des membres.
Mm-hmm.
Ça a l'air que Dubinina, c'est la fille qui s'est fait arracher la langue, c'est la plus grande parleuse du groupe. Genre, elle était vraiment...
Verbomoteur.
Elle s'exprimait, fait que peut-être ça ferait du sens que si, mettons, s'ils se font prendre par des militaires... Ça serait elle qui voudrait arracher la langue, parce que c'est la plus grande langue.
Elle avait une grande gueule.
Ça expliquerait aussi pourquoi deux d'entre eux avaient des marques de combat corps à corps, peut-être pour se défendre. Peut-être que Zolotaryov savait ce qui allait se passer. C'était un ex-militaire, il n'y avait pas tant rapport dans le groupe. Puis Dubinina, une des membres du groupe, elle qui a perdu sa langue, avait écrit dans son journal du 23 janvier, en date du 23 janvier, je cite... Au début, personne ne voulait de ce Zolotaryov, car c'était un étranger. Mais nous avons ensuite accepté parce que nous ne pouvions pas refuser.
OK.
Tu sais, pour du monde, je sais pas, me semble certainement du monde en jouer. Il y avait vraiment ouvert d'esprit. Puis là, ben avec Zolotaryov, il y a quelque chose qu'il aimait pas. Quand le corps de Zolotaryov a été retrouvé 3 mois plus tard, évidemment, il était pas reconnaissable. Durant l'autopsie, ils ont trouvé qu'il y avait un étrange tatou. Puis c'est juste des lettres. Je vais vous nommer les lettres, là, mais ça fait aucun sens, c'est même pas un mot, là. Les lettres, c'était D-A-E-R-M-M, U-A-Z-U-A-Y-A.
Oh shit, il était stampé.
C'est un code.
Ça ressemble à un code, ouais. Zolotaryov, c'est un instructeur de sport, comme j'ai dit au début. Puis les anciens élèves qui l'avaient vu en train de se changer, genre dans le vestiaire, ils n'avaient jamais vu ce tatou-là.
Oh.
Zolotaryov, il n'est pas dans la liste des personnes enterrées dans le cimetière dans lequel il est enterré. Son nom n'est pas là. En 2018, le corps de Zolotaryov a été exhumé après la demande de plusieurs journalistes qui mettaient de la pression depuis des années. Des tests ont été faits, dont un examen d'ADN entre le corps de Zolotaryov et un de ses neveux. Ça ne matchait pas.
Hein?
Ça matchait pas.
Oh.
Puis là, ils ont regardé les blessures du corps, des ossements, tu sais, de ce qui restait du corps. Ça marchait pas avec ce qui avait été écrit dans l'autopsie.
OK.
Fait que ce que ça insinue, c'est que ce serait pas Zolotaryov qui est dans la tombe.
Ouais, mm-hmm. Ça, j'avais compris, mais pourquoi?
Bien, sûrement qu'il était sur le coup, peut-être que...
Ouais, c'est un ex-militaire.
Un ex-militaire, il savait, peut-être quand ils l'ont vu, on dit, ah, ben, ouais, laisse faire, viens avec nous. Et on va mettre quelqu'un d'autre à la place, avec une détente, peut-être un ancien prisonnier de guerre, qui avait été étampé.
Ouais, c'est ça.
En tout cas, faut en prendre puis en laisser, là, mais...
Il y a une grosse anguille en dessous de la roche.
Mais il y en a qui vont dire, ah, mais ça se peut que c'était pas son neveu légitime. Ça se peut que telle affaire dans la famille, que nananana, peut-être que les affaires c'était trop vieux, puis ça qu'il avait collecté dans le temps.
Ah, les blessures qui concordent pas, là, je sais pas.
Mais ça prouve soit un travail très botché,
ouais.
Qu'est-ce qui pourrait indiquer que ce qu'ils ont dit dans l'autopsie, puis comme cause de la mort, c'est de la chenoute. Dernière théorie. La théorie qui a été choisie comme étant la théorie officielle, l'avalanche. Que la nuit fatidique, ça se peut très bien qu'il y a eu une avalanche.
Mm-hmm.
Ma phrase n'est pas sens, en tout cas. Le fait de sortir de l'intérieur de la tente en la coupant de l'intérieur ferait beaucoup de sens. Ça pourrait expliquer ce qui les a poussés à s'enfuir sans rien emmener avec eux, mal habillés. Ça ferait du sens aussi par rapport aux blessures sévères que certains membres avaient. Tu sais, les côtes cassées, les ecchymoses, fracture à la tête,
ouais,
tu sais, il y a de la neige,
ouais.
C'est pesant, là.
Ouais, ouais.
Pour avoir vu des vidéos d'avalanche, là, ça fait des ravages.
C'est dans la neige, là.
Ouais. Puis tu sais, même le bruit, mm-hmm, d'une avalanche, là, c'est ça qui les aurait poussés à sortir.
Ouais,
genre,
à sortir vite, ouais.
Parce qu'il faisait pas beau, là, dans ces jours-là, là, il y avait des tempêtes. Ouais. Mais la théorie, elle a plusieurs failles. Il n'y avait aucun signe qu'il y avait eu une avalanche. La tente avait seulement une fine couche de neige dessus. Puis une avalanche avait des ravages, là. La tente aurait même pu être là, je pense.
Ouais, ben c'est ça. C'est ouais, exact.
Peut-être que ça marche pas tant.
Non, ça marche pas.
Les traces de pas étaient encore visibles.
Ouais.
Leur bâton de ski qui était enfoncé dans la neige, qui servait à garder la tente debout, était encore droit puis en place. Puis ils n'ont pas tous été retrouvés sous la neige.
Ouais.
Puis le mont Kolatsiakul, il est pas très haut, il est pas abrupt. C'est pas un mont qui est nécessairement à risque d'avalanche. Rien n'empêche qu'ils ont peut-être entendu le bruit d'une avalanche, de ce qui se pensait être une avalanche qui les a fait sortir.
Ouais.
Parce que ça fait un bruit de fou, comme on vient de dire. Mais ils auraient bien vu que c'est pas ça, ils auraient retourné dans la tente. C'est peut-être pour ça qu'ils ont marché un coup dehors. Si on va avec la théorie qu'ils ont marché et pas fait des enjambées plus difficiles dans la neige. Fait que tu sais, c'est pas complètement parfait. Quand ils ont vu que tu étais correct, pourquoi ils sont juste pas revenus au campement? Pourquoi ils sont allés plus loin?
Ouais, mais c'est ça. Faire un feu.
Faire un feu.
Ah, c'est vraiment...
C'est louche.
C'est vraiment juste bizarre. Puis des randonneurs aussi expérimentés qu'eux autres, là, ils auraient compris qu'il aurait fallu longer le flanc de la montagne. Mais si mettons, ils pensaient que c'est une avalanche, ils ont descendu. Mais l'avalanche, elle va continuer à te suivre.
Ouais, c'est ça, c'est con.
Faut que tu vas sur le long, pas en descendant. Fait que ça, ils auraient dû savoir ça. Fait que ça marche pas. C'est possible que, comme l'autopsie le dit, ils sont morts d'hypothermie à cause qu'ils sont sortis dehors en pensant avoir entendu une avalanche, mais qu'ils n'ont pas pu revenir à la tente à cause de la visibilité nulle causée par le blizzard.
Ah, peut-être.
L'hypothermie ne cause quand même pas une si côte cassée.
Non, ouais, non, c'est ça. Il y a tout le temps de quoi qui cloche, ouais. Peu importe.
La radiation, whatever, les ajustements bizarres, tu sais, il y a plein d'affaires qui ne marchent pas. Mais l'avalanche, c'est la cause officielle après la réouverture de l'enquête en 2019.
C'est pas fort, là, quand tu dis que...
Oui, il y avait du monde de choqué.
De même, c'est sûr que c'est pas ça, fait que, tu sais, c'est un peu insultant.
En même temps, ils ont pas le choix de statuer sur quelque chose parce qu'on peut pas savoir, là. Il s'est passé clairement quelque chose qu'on peut pas expliquer. Là,
ouais, mais tu ou mets ça cold case.
Ou qu'ils le savent, mais qu'ils peuvent pas le dire.
Ouais.
Ouais, pour que le chef de l'enquête s'est résigné, puis que... En tout cas, c'est juste vraiment bizarre. Puis s'il y a d'autres mini-théories, mais je m'élaborerai pas trop là-dessus. Il y avait un four d'entente, puis il y en a qui pensent que le four a pogné en feu d'entente. Pis c'est pour ça qu'ils sont partis. Parce qu'il y avait vraiment... Si on regarde les photos qu'ils ont prises dans les journées précédentes leur mort, là... Il y avait vraiment un four d'entente, là. Puis ben, il se faisait à manger d'entente. Ça se peut, mais pourquoi t'es blessé dehors? Ça marche pas.
Non, c'est ça.
Puis il y avait Yeti, qu'on a dit. On avait l'oiseau radioactif. Puis il y avait une tribu qui habitait dans la montagne, mais non, là, j'ai arrêté. Il avait... Non, c'est pas ça. Je refuse cette explication.
Je sais pas.
Mais on aurait trouvé d'autres traces, des armes, tu sais.
C'est ça.
Puis les membres de cette tribu-là, ils ont aidé à la recherche.
Tu sais, comme tu dis, les pas, ça marche pas. Il y a plein d'affaires qui marchent pas. La radiation, ouais. Ça marche pas.
Ça ressemble à ça. Ouais. Ça ressemble à ce que, même avec leur supposément cause officielle, et l'autopsie et les causes de la mort, peu importe, c'est pas réglé, le cas de Dyatlov. Puis, ils ont pas exhumé les autres corps. Tu sais, quand ils ont réouvert l'enquête, là,
ouais.
Ils auraient dû exhumer les autres corps, faire d'autres tests, voir s'il n'y avait pas autre chose. Mm-hmm. Avec la technologie d'aujourd'hui, c'est sûr qu'ils rajoutent des ossements. Là. Peut-être que je m'avance sur un terrain que je connais pas trop le domaine. Mais tant qu'à, tu en exhumes un, tu vois qu'il y a des affaires louches, tu checkes le reste.
Check le reste.
Oui, oui.
T'inquiète là.
C'est vraiment botché, là, c'est louche. Ouais.
Mais c'est souvent ça qui est choquant. C'est que les enquêtes botchées créent des cold cases puis des grands mystères, mais si ça avait juste été bien fait dès le début, il
n'y
en aurait pas de problème.
Ouais. Ouais.
C'est tellement c'est juste ça. Un manque de volonté. Mais c'est ça. Dyatlov, qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous qui l'entendez dans sa complexité pour la première fois?
Ben, je te dirais que j'aime pas bien ben ça, les aliens, mais ça pourrait être ça. Sinon, je vais garder l'oiseau radioactif pour cette fois.
Très créatif, en passant.
Tout se contredit, là. Ça, peu importe l'hypothèse qu'on peut émettre, là, il y a de quoi qui... Oh, fait que je sais pas. C'est juste
sauf
vraiment weird.
Les aliens.
Ouais, parce que ça pourrait être tout puis n'importe quoi, les aliens, tu sais.
Ouais.
Les aliens sont rendus au même stade de... J'en ai déjà parlé, me semble. Mais, ah, il y a tel événement qui se passe, c'est Dieu. C'est la main de Dieu. Mais là, c'est rendu... Ah, il est arrivé telle affaire, on n'a pas d'explication. C'est les extraterrestres.
C'est les extraterrestres.
C'est rendu au même titre.
Fait que c'est bon puis c'est pas bon, dans le fond, là, tu sais.
Ouais.
Moi, je veux plus avec c'est un facile. Test militaire. Je pense que c'est le test militaire. Ça ils ont vu de quoi qu'il n'y aurait pas dû.
Ouais, mais comment le... Les militaires auraient fait pour les maganer sans trace de pas.
Mais c'est peut-être pas les... Ils ont...
Puis moi, je pense... la radioactivité.
Je pense qu'ils ont vu quelque chose. Mettons qu'on fait quelque chose. Là. T'sais, ils ont peut-être vu un truc militaire, là, quelque chose de... qu'ils n'auraient pas dû voir. Mais les militaires n'ont pas nécessairement su, mais il y a eu une retombée radioactive à cause de ça.
Mm-hmm.
Puis là, ben, eux, ils ont déliré collectivement. Puis ça l'explique les blessures un peu weird. Puis le fait que c'est comme un peu erratique. T'es, peut-être que là, il y en a qui se sont mis à délirer. Là, mais pas tout en même temps nécessairement. Fait que il y en a qui est sorti de la tente en déchirant la tente. Il y en a deux, trois qui se sont pognés. Il y en a deux qui se sont sauvés dans le bois. Ça s'est fait comme un peu n'importe comment.
L'hystérie.
Ouais, l'hystérie.
L'hystérie merci. Collective. J'ai vu l'hystérie arctique. Je pense que c'est quand t'as un très grand froid, ça te monte à la tête.
OK.
Mais je suis pas sûre. Ça se peut que ce n'est juste un qui a tilté, qui a dit « Moi, je suis un corps, je sors de la tente, puis se sont mis à courir après, puis se sont perdus. » Il y avait juste deux personnes qui avaient de la radioactivité sur eux autres en passant.
OK.
Il y avait juste eux. Okay. Fait que ça se peut aussi que c'était le manteau d'un autre, parce qu'ils ont échangé leur langue.
Ouais, là, c'est ça. Ça veut pas
fait que
dire...
ça vient même là. C'était à qui à la base? Qui a eu ce vêtement-là? Il y a de quoi qui les a vraiment.
Il y en a un qui a amené quelque chose avec lui qui n'était pas au courant, mais que les autres n'étaient pas au courant. Puis il leur a donné de quoi. T'es, je sais pas, là, ça peut être un. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on essaie de trouver le responsable, mais il était déjà là. Ça vient de l'intérieur.
Mais si toutes les armes étaient dans la tente, ben on aurait peut-être vu des pas de quelqu'un qui part et qui revient et qui part et qui revient. Il y a trop de mystères, puis ça a l'air que la montagne était proche d'un goulag. Là, les militaires ou les policiers voulaient pas que ça se sache, que quelqu'un s'était sorti sauvé d'un goulag. Fait que là, ils ont voulu taire l'affaire pour pas perdre la face d'avoir eu un échappé de goulag.
Puis c'est le corps qu'ils auraient mis à la place de Zolotarium?
Peut-être, ouais.
C'est tellement devenu possible.
C'est pour ça qu'il y avait 75 théories à regarder là, quand ils ont réouvert l'enquête en 2019. Puis je pense qu'il y en a d'autres, là. Tu sais, il y en a des... tellement bizarre, puis on est des tellement touchés, puis je suis comme, OK, là, c'est soufflant, là. Encore une fois, un mystère de plus à nos vies.
Intéressant.
Intéressant.
Mm-hmm.
Et voilà.
Fascinant.
Ouais. Alors, les photos seront disponibles sur Instagram? N'oubliez pas de visiter le spooksandspinks.com pour 15% de rabais sur votre commande avec le code promo Petite Frousse.
Bye!
Bye!
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.